Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une de ce midi, la mort de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo ne découragera pas les diplomates à visiter l'Est de la République démocratique du Congo et n'aura aucun effet sur leur engagement pour travailler avec les autorités congolaises. Cette déclaration est de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo qui séjourne à Goma depuis lundi. En Ituri, dégradation du tronçon Djina Pimbo sur la route nationale 27. Plus de 200 véhicules avec marchandises sont bloqués sur cet axe routier. Une situation qui inquiète les usagers qui sont exposés aux attaques des miliciens de la Codeco qui circulent librement avec leurs armes dans la région. Et puis l'ambassadeur de la Grande-Bretagne est notre invité, Madame Emily Maltham, qui séjourne à Goma depuis lundi, a échangé avec plusieurs femmes de la province qui exercent dans différents secteurs. D'abord cette information, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU est arrivée à Bukavu ce mercredi matin. Madame Bintou Keïta vient de Goma, au nord Kivu. Son programme à Bukavu prévoit une rencontre avec le gouverneur de la province du sud Kivu, à son cabinet, les membres de la société civile et le staff des Nations Unies œuvrant au sud Kivu. Avec l'autorité provinciale, les entretiens pourront tourner autour de l'appui de la MONUSCO au gouvernement provincial du sud Kivu, qui fait face actuellement à la hausse de la criminalité urbaine et celle des groupes armés, surtout dans sa partie sud. Également sur le processus de démobilisation et réinsertion communautaire des combattants qui déposent les armes. Le retour de la chef de la MONUSCO sur Goma est prévu ce mercredi après-midi. Je le disais en titre, la mort de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo ne découragera nullement les diplomates à visiter l'Est de la République démocratique du Congo et n'aura aucun effet sur leur engagement pour travailler avec les autorités congolaises afin de réduire les conflits. Déclaration ce mardi à Radio Kapi de l'ambassadeur britannique en République démocratique du Congo. Emily Maltman, qui séjourne actuellement à Goma, est revenue sur l'incident du 22 février qui a coûté la vie à l'ambassadeur italien. La diplomate britannique recommande de redoubler des efforts pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice britannique inscrit sa visite sur le terrain pour compatir avec la population qui est confrontée au phénomène de l'insécurité qui empêche toute forme de stabilité et le développement durable. Emily Maltman au micro de Mathieu Ilunga-Chamboy.
Après l'incident tragique de la perte de notre collègue italien Luca Attanasio et ses deux collègues, c'était important de montrer que les ambassadeurs vont venir encore à l'Est du pays. Nous n'avons pas peur, mais aussi que nous sommes toujours engagés ici à l'Est. Nous allons continuer notre travail pour essayer de réduire le conflit avec les autorités congolaises. Et c'est clair que les diplomates communiquent avec le gouvernement chaque fois que nous sommes à l'intérieur du pays et s'il y a un besoin pour la sécurité, on en discute. Mais en fait, je pense que c'est pas idéal de focaliser trop sur la question de sécurité des diplomates. Je voudrais aussi venir pour écouter les inquiétudes de la population parce que nous savons que cet incident le 22 février, c'était un incident très violent, mais quand même, il y a l'engagement britannique qui va continuer. Nous sommes absolument convaincus que nous devons redoubler nos efforts avec le gouvernement congolais pour mettre fin aux groupes armés. Et deuxièmement, promouvoir le rôle de la stabilité et la sécurité, mais aussi le développement durable dans ce pays.
Il faut noter que la diplomate Emily Maltman a échangé hier avec plusieurs groupes et associations des femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars à Goma, peu avant de rencontrer le gouverneur de province. Dans la province de la Tchopo, un groupe d'éléments de la secte mystico-religieuse Nzambe Lumumba a été transféré hier mardi dans la mi-journée à Kinshasa par un vol militaire. Au total, 31 personnes, dont une femme, tous poursuivies par l'organe de la loi après avoir crié des incidents en date du 19 février dernier dans la ville de Kisangani, lesquels avaient coûté la vie à deux personnes, dont un soldat FARDC et un assaillant. Les explications avec Jacques Mukonkole.
D'après certaines sources à Bangoka, ces milices de Nzambe Lumumba ont été regroupées à l'aéroport international de Bamboka depuis la veille, en attendant un avion devant les embarquer pour Kinshasa. Après les incidents du 19 février dernier, lesquels avaient coûté la vie à un soldat FRDC et à un élément de la secte Nzambe Lumumba, 18 éléments avaient été arrêtés et jetés dans la prison centrale de la ville. D'autres qui erraient dans la nature ont été récupérés progressivement. Un procès en flagrance avait été initié afin d'élucider les comptes autour de cette affaire et établir les responsabilités. Alors que les Boyomé attendaient la poursuite des audiences et surtout la fin de ce procès pour connaître les tenants et les aboutissants de l'attaque du 19 février au quartier des musiciens, coup de théâtre. Les insurgés ont été transférés à Kinshasa. Qu'est-ce qui aurait motivé la suspension de la procédure judiciaire déjà entamée à Kisangani? Pas de réponse pour le moment, ni du côté de l'auditorat militaire, ni encore moins de celui des autorités politico-administratives locales. Ces dernières, n'ayant confirmé ni infirmé ce transfert, disent tout de même attendre le rapport des services de sécurité à ce sujet avant de publier un communiqué officiel dans les heures qui suivent. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Les auteurs de l'insécurité persistante sur la ville de Kananga se retrouvent dans toutes les catégories de la population. C'est le constat fait par un député national élu de Kananga, Jean-Pierre Kayembe, qui est en vacances parlementaires, dit avoir échangé avec les autorités provinciales et les forces de l'ordre sur cette question. Au finish, il demande au gouvernement central de doter les patrouilleurs des engins pouvant leur permettre de déjouer ces coups et aux autorités locales d'arrêter les auteurs intellectuels de ces cambriolages. Suivez le député Jean-Pierre Kayembe.
Les policiers m'ont dit que ceux qui sont à la base de cette insécurité, ce sont les hommes armés qui, par moment, lorsqu'on les arrête, quelques temps après, on les voit en circulation. Pour cela, je devais voir quelques autorités. J'ai vu ces autorités, ils sont conscients de la situation, ils m'ont donné leurs raisons, qui tiennent ou qui ne tiennent pas, parce qu'ici, les responsabilités sont partagées, selon ce que j'ai constaté. Ils m'ont dit que s'il y a des gens qu'on libère parfois, c'est parce que les PV que l'on envoie au parquet sont inintelligibles et parfois illisibles. Ils disent que des fois, les OPJ qui font des procès-verbaux n'ont pas compétence. J'ai demandé que l'on puisse faire le recyclage, que l'on puisse renouveler le corps des OPJ. Aussi, il y a des autorités militaires, policières qui sont suspectées. Et pour cela, l'auditeur m'a rassuré qu'il avait déjà les dossiers en main, qu'il est en train de fournir ses efforts pour arriver à maîtriser la situation. Aussi, il y a un problème, c'est que la ville de Kananga n'a qu'un seul véhicule pour la patrouille. C'est comme ça que moi je demande aux autorités de la République, au président de la République, à son gouvernement, à les gouvernements qui sera nommé bientôt là, de pouvoir quand même s'investir parce que ça ne va pas. Si on peut donner ne fût-ce que 10 véhicules à la province de Kassai Central, ça peut permettre à ce que l'on maîtrise la situation. Avec la DIP qu'on a, il suffit qu'on appelle les gens qui sont à Katoka alors que les courses opèrent à Kanangade, vous voyez la distance et tout ça.
L'actualité, c'est aussi le fonctionnement de la chaîne pénale qui est butée à d'énormes difficultés dans la province du Sud Kivu. En dehors du manque des moyens matériels et financiers, toute la chaîne de la justice n'a pas d'effectif du personnel qu'il faut. Ces révélations ont été faites ce mardi 9 mars à Bukavu au cours des échanges entre les membres de la société civile et la chaîne pénale. Une activité organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO Bukavu. Emmanuel Elamejo Akabedi.
De toutes les juridictions civiles et militaires, de la police et même de la prison centrale de Bukavu, les effectifs du personnel sont insuffisants. Hilaire Ngoyi Mwepu, magistrat à la cour d'appel du Sud Kivu.
La province du Sud Kivu n'a pas assez d'effectifs en termes de policiers, en termes de magistrats du parquet et du siège, que ce soit du côté des civils ou des militaires. Donc, effectifs insuffisants par rapport à la taille de la province, mais aussi par rapport à la tâche. La deuxième difficulté, c'est la difficulté relative aux moyens. Cette province est vaste. Déjà, on n'a pas assez de magistrats, mais ceux qui sont là n'ont pas assez de moyens.
La société civile du Sud Kivu s'est dit heureuse d'avoir débattu avec la chaîne pénale du Sud Kivu sur cette question, Maître Zozo Sakali, président du cadre des concertations.
D'un côté, il y a les acteurs sociaux qui pensaient qu'il y a les autorités judiciaires qui sont à la base. Chaque fois qu'un bandit est appréhendé dans les quartiers, le lendemain, il est retrouvé dans les quartiers pendant qu'il a été déposé entre les mains de la justice. On s'est demandé c'est quoi au juste. Aujourd'hui, nous venons d'être édifiés. Comment on peut coopérer avec la justice?
La section de l'appui à la justice de la MONUSCO justifie cette rencontre par le souci d'approcher la justice des justiciables. Ceci pourra permettre de réduire des cas de justice populaire qui deviennent récurrents en province. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le tribunal de paix de Beni vient d'acquitter ce mercredi l'artiste musicien Idengo Delcato dans l'affaire l'opposant au ministère public. Cet artiste de Beni était poursuivi notamment pour offense au chef de l'État et faux bruit dans sa chanson intitulée « Politicien escroc ». André Kitenge nous en dit plus.
Cet acquittement a été prononcé ce mercredi matin au cours de l'audience prévue à cet effet au tribunal de paix de Beni. C'était à l'absence du prévenu dont son extraction traînait encore en prison lors du prononcé. Toutefois, il a été représenté par le collège de ses avocats conseils. Aussitôt le verdict prononcé par le président du tribunal de paix de Beni, Alexis Bahati, maître Eli Vaumawa, l'un de ses avocats conseils, n'a pas caché sa satisfaction. Il estime que toutes les préventions retenues à charge de son client n'étaient pas fondées.
Je suis plus que satisfait de cet acquittement. Je ne suis pas surpris parce que déjà au début de ces audiences, nous avions dit que Idengo devait être libéré. Au fait que les infractions mises à sa charge n'étaient pas fondées, non établies à fait comme à droit. Que donc, nous saluons cette œuvre de la justice. C'est la justice qui a triomphé et là, c'est l'état de droit en marche.
Rappelons que le ministère public avait requis le lundi dernier une peine de 3 mois de servitude pénale principale à l'encontre de l'artiste musicien. Ce jour-là, une foule nombreuse de fanatiques du musicien étaient venus soutenir leur star à l'audience. La police avait même usé des bombes lacrymogènes pour disperser la foule au terme de l'audience afin de faciliter l'acheminement du prévenu à la prison centrale de Kangwaï. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Poursuivons ce journal et rendons-nous à présent en Ituri où plus de 200 véhicules avec des marchandises à bord sont bloqués depuis 3 jours sur le tronçon Jina-Pimbo sur la route nationale 27. C'est suite à la dégradation de cet axe routier qui constitue un calvaire pour les usagers de cette route. Ces derniers indiquent même que le mauvais état des routes expose les passants aux attaques des miliciens de la Codeco qui circulent librement avec leurs armes dans la région. Isaac Remoyope.
Le tronçon qui est quasi impraticable est situé entre les localités d'Iga Barrière, Lopa, Matete, Jina, Nyapala, Pitso et Pimbo, long d'environ 40 km. Plusieurs bourbiers jonchent cet axe routier où plusieurs véhicules, notamment des camions qui transportent du carburant et autres marchandises, sont bloqués depuis 3 jours, affirment certains conducteurs. Selon ces derniers, cette partie constitue même les bastions des miliciens de la Codeco qui ont incendié environ 6 véhicules en 2020. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route pour ne pas exposer les usagers des routes aux attaques de ces groupes armés qui sont en errance avec leurs armes, l'un des conducteurs.
La route Bunia-Maagi s'est fortement dégradée. Nous, les chauffeurs, nous souffrons beaucoup. Quitter Jina pour arriver à Pimbo, c'est très difficile. Depuis 3 jours, aucun véhicule n'est entré en ville de Bunia. Nous supplions le gouvernement de la RDC de nous aider car il y a la sécurité sur cette route.
Contacter le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures a déclaré que les travaux de réhabilitation de cette route sont lancés depuis une semaine pour faciliter le trafic des personnes et de leurs biens sur cette route d'importance capitale pour l'économie de la province et du pays. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Butembo, la Caisse Générale d'Épargne du Congo, Kadeco en sigle, fait payer le bordereau de versement aux assujettis car ils viennent d'acquitter les différentes taxes de l'État. D'après Kaindo Koch, coordonnateur de la nouvelle société dans la ville qui le dénonce, ce paiement concerne uniquement des taxes à caractère national. Selon lui, cette situation pousse certains assujettis dans un retard de paiement de la taxe avec conséquence de payer avec pénalité. Il appelle donc à la suppression de ces frais pour alléger la tâche aux assujettis. Kaindo Koch explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Quand vous venez payer la taxe de l'État, la Cadeco vous exige de payer les bordereaux. Si vous n'avez pas ces frais, vous retournez. Mais il y a des gens qui subissent maintenant des pénalités, conséquences, de ne pas payer à temps. À cause de ne pas avoir les frais de bordereaux. À un certain moment, nous avions réclamé à la province, le gouverneur, l'époque, c'était Girier, il avait dit, comme vous réclamez trop, moi j'enlève. Quand vous venez payer l'argent qui concerne la province, vous n'aurez pas payé les frais de bordereaux. On a déjà élevé, mais ça reste seulement aux taxes qui a un caractère national. C'est là où maintenant, le problème se pose.
Est-ce que c'est seulement à la Cadeco ou bien dans toutes les autres banques?
C'est seulement à la Cadeco qu'on exagère. Parce que dans d'autres banques, là, il y a des comptes. Vous venez payer au compte de service X, là, vous n'avez pas de problème. C'est seulement à la Cadeco.
Direction Maniema, la plénière prévue ce mercredi 10 mars pour traiter la motion de défiance contre le gouverneur déposée par les députés provinciaux et dont le concerné a été notifié le vendredi 5 mars n'aura plus lieu. Pour cause, le gouverneur a adressé ce mardi une requête à l'Assemblée provinciale demandant un report pour lui permettre de bien se préparer. Florence Kizalunga, reportage.
Dans une correspondance adressée à l'Assemblée provinciale le 9 mars, Moussa Firinkola dit être prêt à répondre aux préoccupations du député. Cependant, il sollicite un délai de 30 jours pouvant lui permettre de bien préparer ses moyens de défense. Après réception de la lettre du gouverneur, les bureaux lui rassurent un délai conformément aux règlements intérieurs et lois de la République. Théophile Boulé-Lidokta, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale.
Effectivement, on a reçu la lettre du gouverneur de la province mandat est sur le report de la plénière pour traiter la motion. Le bureau a accepté. Maintenant, nous allons siéger avec le député. Cette plénière ne sera pas basée sur la motion, mais plutôt sera basée sur le délai. On va lui accorder un délai afin de pouvoir lui permettre de venir maintenant répondre à l'Assemblée provinciale. Donc, la plénière va lui accorder le délai conformément au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale ainsi que les lois de la République démocratique du Congo. Le bandit de report, c'est son droit et il en aura. Moi, j'appelle seulement la population. Sois calme, on ne va pas traiter la motion émise, mais plutôt nous allons traiter sur la lettre pour accorder au gouverneur un délai de pouvoir venir maintenant à l'Assemblée pour rencontrer les préoccupations des députés.
Sachez que les représentants du peuple siègent ce mercredi 10 mars pour examiner cette question. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Près de deux mois après l'élection présidentielle, l'opposant Bobi Wine demande à la population de se mobiliser. Nous sommes là en Ouganda pour contester les résultats officiels du scrutin et la victoire du président sortant Yoweri Museveni. Après avoir retiré son recours devant la Cour suprême, le principal candidat de l'opposition appelle maintenant les Ougandais à réagir. Le parti de Bob Wine doit rendre public sur son site internet toutes les preuves avancées devant la Cour suprême. L'opposant demande maintenant aux Ougandais de se mobiliser sans donner la date précise du début du mouvement.
L'invité.
Nous recevons ce jour l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, Madame Emily Maltman, indique qu'elle séjourne à Goma depuis lundi pour prendre part aux manifestations commémoratives du 8 mars avec les femmes de la partie est de la RDC. Cette diplomate britannique a échangé avec plusieurs femmes de la province qui exercent dans différents secteurs. À cette occasion, elles ont abordé plusieurs sujets, dont entre autres la lutte contre les violences sexuelles. Emily Maltman s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Madame Emily Maltman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'est du pays, précisément à Goma, dans le Nord Kivu. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur votre visite dans le Nord Kivu?
En tant qu'ambassadeur britannique ici en RDC, c'est tellement important de sortir de Kinshasa parce que nous, les diplomates, nous sommes là pour voir et communiquer avec toutes les parties du pays. Donc, je suis venue lundi le 8 mars, le jour international des femmes, pour célébrer pour fêter la journée avec les femmes ici à l'est du pays. Et aussi aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs femmes qui travaillent dans le secteur privé, aussi dans la justice. Et donc, j'ai aussi parlé avec plusieurs acteurs dans les questions d'égalité des genres, la lutte contre l'impunité et la lutte contre la violence sexuelle. Donc, il y avait cet axe sur les femmes ici à l'est du pays, leur rôle dans la réduction de violence. Mais aussi, je pensais que c'était important, après l'incident tragique de la perte de notre collègue italien et ses deux collègues. Nous n'avons pas peur. Nous sommes toujours engagés ici à l'Est. Nous allons continuer notre travail.
Votre agenda pendant votre séjour dans le Nord Kivu à l'intérieur du pays?
Comme j'ai dit, j'ai rencontré des femmes qui sont actives dans le pays et j'ai échangé avec des programmes que nous soutenons comme Elan, par exemple, qui est beaucoup dans le secteur privé. Mais j'ai aussi rencontré le gouverneur aujourd'hui. J'ai échangé avec la MONUSCO aussi de discuter la situation sécuritaire et de voir où nous sommes avec les actions contre les groupes armés, soit la collaboration entre la MONUSCO et les FRDC, mais aussi j'ai échangé avec le gouvernement l'importance d'avoir une nouvelle politique de DDR, DDR communautaire, on parle beaucoup, et aussi notre contribution au niveau de stabilisation. Et c'était bien d'échanger et c'est important que je ramène quelques messages à Kinshasa aussi pour encourager le gouvernement national dès que c'est en place, qu'on s'agisse rapidement avec une nouvelle politique DDR communautaire et stabilisation.
Vous avez parlé de certains projets que votre gouvernement est en train d'appuyer dans l'est du pays. Quel est le constat que vous avez sur terrain?
Moi, quand je voyage, c'est idéal de voir les programmes et d'échanger avec les gens qui travaillent dans les programmes que nous finançons. Mais j'ai aussi plusieurs collègues qui font la suivi en détail de tous les programmes. Donc j'ai échangé aujourd'hui avec Elan et j'ai mieux compris leur soutien auprès des femmes dans le secteur privé. D'abord, des femmes dans l'agriculture. On a parlé beaucoup de la production de maïs et de soja à Massissi. Et nous avons aidé un collectif des femmes avec les nouvelles semences, mais aussi à l'accès au marché. Et deuxièmement, nous avons discuté avec la société congolaise Altec, qui a aussi reçu l'assistance d'aide et d'appui d'Elan pour promouvoir l'emploi des femmes dans la vente des produits d'Altec comme les lumières solaires et aussi les fours pour les ménages qui utilisent le charbon.
Vous pensez que les objectifs sont atteints ou c'est encore sur la bonne voie?
Oui, sur la bonne voie, surtout avec le programme d'Elan qui a été établi il y a 5 ans. Il y a beaucoup de résultats déjà atteints et pour l'instant, nous continuons de voir comment est-ce que le gouvernement britannique, comment nous pouvons continuer de stimuler le secteur privé en RDC, parce que en partie de la soutien pour la stabilité et pour améliorer la situation sécuritaire, c'est aussi la croissance économique en fait. Et donc c'est important de bien sûr de soutenir la MONUSCO et les questions de sécurité, mais de l'autre côté, c'est important de stimuler le commerce et l'accès aux emplois alternatifs à ceux qui vont les groupes armés.
Après l'étape de Goma, votre itinéraire?
Malheureusement, je dois rentrer à Kinshasa, mais j'espère bientôt venir aussi dans d'autres, peut-être dans Sugivu ou ailleurs à l'est du pays. Et j'en suis sûre que je vais revenir encore à Goma bientôt.
Donc, c'est quoi votre message?
Exactement. Il y a l'engagement britannique qui va continuer. Nous sommes absolument convaincus que nous devons redoubler nos efforts avec le gouvernement congolais pour mettre fin aux groupes armés. Et deuxièmement, j'ai saisi l'opportunité de venir sur la Journée internationale des femmes pour promouvoir le rôle des femmes dans la stabilité et la sécurité, mais aussi dans le développement durable dans ce pays.
Madame Emily Maltman, je vous remercie.
Merci à vous.
Cette session de nos informations se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde. Alain Irung, la supervisée. Élisée Chikota s'est chargée de la coordination. Je me nomme Nico Kalambay. Excellente suite de nos programmes.